Vous écoutez, on lit pour vous.
Industrie minière, des femmes pour changer les choses? Un texte d'Adèle Surprenant, paru le 8 mai 2025 dans la Gazette des femmes. Fleuron de l'économie québécoise pour certains, fléau pour d'autres, l'industrie minière passe rarement inaperçue. Visible, les femmes le sont aussi de plus en plus au sein de l'industrie et dans les rangs de ses opposants-opposantes. Lorsqu'elle commence sa carrière d'ingénieur, Julia Gartley a bien peu de modèles dont elle peut s'inspirer, et encore certainement moins dans les mines, s'exclame-t-elle. Un défaut de représentation que le secteur peine à rattraper. En 2024, les femmes comptent pour 16% de la main-d'œuvre minière au Canada, contre environ 48% dans toutes les industries confondues, d'après un rapport du Conseil des ressources humaines de l'industrie minière. Dès 2009 commence pourtant à germer le projet Women in Mining Canada et sa vision égalitaire pour l'industrie. Le but est d'inspirer les femmes à entrer dans le domaine minier et à être des actrices de changement, soutiennent à l'unisson la géologue Alizée Liénard et Anne-Marie Proux, candidate à la profession d'ingénieur, membre de la section du Saguenay-Lac-Saint-Jean de l'organisation. En favorisant la curiosité et en soulevant des questionnements auprès de leurs membres et de l'industrie dans son ensemble, elles espèrent voir l'industrie faire un pas vers l'inclusivité. Effet domino. L'industrie est enracinée dans une culture hyper-masculine, constate Julia Gartley, directrice du conseil de Mindshift, un organisme sans but lucratif, OSBL, fondé en 2018 dans la foulée du mouvement MeToo. Son objectif, travailler ensemble pour transformer cette culture. D'abord mis sur pied pour répondre aux problèmes de harcèlement et d'agression sexuelle dénoncés par les travailleuses de l'industrie, la mission de Mindshift, auparavant MeToo Mining Association, s'est depuis élargie à d'autres formes de comportements problématiques en milieu de travail. À travers son programme de formation Digger, conçu spécifiquement pour répondre aux enjeux du secteur minier, l'OSBL vise à réduire l'intimidation, le harcèlement et les discriminations en tout genre. Il s'agit tout simplement d'une question de sécurité, estime Julia Gartley. Pour autant, la portée recherchée ne doit pas, selon elle, se limiter aux sites miniers. C'est une industrie globale, implantée dans de nombreuses communautés. En améliorant notre sécurité, nous sommes capables de réduire les risques et d'avoir des retombées plus positives dans l'ensemble, considère-t-elle. Visionnaire. Améliorer les pratiques de l'industrie minière de l'intérieur, c'est possible? Isabelle Demers, directrice et professeure à l'Institut de recherche en mines et en environnement, rattachée à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, UQAT, y croit aussi. Sur les enjeux environnementaux, il faut arrêter de penser que l'industrie minière est très rigide, soutient la spécialiste en prévention de la contamination des sites miniers. Les compagnies minières sont prêtes à essayer de nouvelles choses, à condition que les propositions arrivent avec de bonnes démonstrations, de bons arguments et de bonnes preuves, dit-elle, par ailleurs rassurée par la réglementation environnementale provinciale qu'elle estime assez sévère. Une chance pour le Québec, s'enthousiasme Isabelle Demers. Le verre toujours à moitié plein, elle se réjouit que, face à des problèmes comme la gestion des rejets miniers ou l'adaptation au changement climatique, les acteurs de l'industrie s'entendent pour mutualiser les solutions. Dans le domaine de l'environnement minier, où tout le monde travaille pour la même cause commune, poursuit-elle, il n'y a pas de secret industriel comme dans le reste du secteur minier. Autre spécificité de ce corps de métier, il y a souvent beaucoup de femmes dans le département environnement, un phénomène qu'elles s'expliquent sans aucune base scientifique par leur plus grande compassion. Les femmes pensent un peu plus loin et comprennent que travailler sur un site minier peut avoir des conséquences plus grandes. Des bénéfices pour toutes. Des conséquences dont Elizabeth Patterson, avocate associée au cabinet Dion Scholes, témoigne régulièrement. Spécialisée en droit autochtone, elle accompagne des communautés des Premières Nations et Inuits dans les consultations ou les négociations conduites avec les compagnies minières. Pour mener à bien un projet, celles-ci sont dans l'obligation légale de viser à obtenir le consentement des communautés détenant des droits ancestraux sur le territoire qu'elles envisagent d'exploiter. Le problème, résume Elizabeth Patterson, est qu'un flou persiste autour du cadre juridique et de son application. Le moment du processus où doivent se tenir les consultations en vue d'obtenir le consentement des communautés concernées n'est, par exemple, pas précisé dans le texte de loi. Une situation qui nuit aux communautés, tout comme aux compagnies minières, analyse l'avocate, car l'incertitude génère un risque économique défavorable à l'investissement. Le rapport de force n'en est pas égal pour autant. Elizabeth Patterson décrit un retard du gouvernement provincial. « Je ne crois pas que le cadre réglementaire en ce moment soit équilibré. Il favorise beaucoup trop les compagnies minières par rapport aux Autochtones, et en particulier les femmes autochtones », observe-t-elle. De plus, les retombées économiques des projets miniers bénéficient surtout aux hommes, tandis que les études d'impact négligent encore souvent la parole des femmes. Avec toute la pression sur les minéraux critiques, ça va aller en s'empirant, anticipe l'avocate. Mais la nouvelle ère dans laquelle se projette l'industrie minière québécoise ne peut que se faire avec un respect des droits des peuples autochtones et des femmes autochtones en particulier, tranche Elizabeth Patterson. C'était « Industrie minière ». Des femmes pour changer les choses? Un texte d'Adèle Surprenant paru le 8 mai 2025 dans la Gazette des femmes.
Le regroupement familial en immigration, moins controversé que l'on pensait. Un texte de Jean-Louis Bordeloup paru le 26 avril 2025 dans Le Devoir. Deux tiers, 67% des Québécois se disent plutôt ou tout à fait d'accord pour que les délais pour la réunification des familles immigrantes soient plafonnés à 12 mois, la norme au Canada. Au Québec, ce délai approche plutôt les 35 mois. On est moins controversé que l'on pensait, observe Marie-Gervaise Pilon, enseignante et vice-présidente de Québec réunifié. Cet organisme de soutien pour immigrants en attente de regroupement familial, fondé en 2023, a commandé cette étude auprès de la firme Léger. Ces données sont ainsi tirées d'un sondage plus large réalisé sur une variété de sujets. Outre l'appui pour de plus courts délais dans le regroupement familial, une majorité de Québécois, 64%, considèrent que ces réunifications devraient être une priorité importante pour les gouvernements en matière d'immigration. Ça fait du bien de savoir que la situation actuelle n'est pas représentative de notre chez-nous. Ce n'est pas représentatif de nos maisons, du Québec qu'on aime et auquel on s'identifie, commente Mme Pilon. Au Canada, les délais de traitement des demandes de résidence permanente pour un conjoint tournent autour de 13 mois pour un immigrant actuellement à l'étranger et de 10 mois s'il est déjà au pays. Au Québec, ces délais s'établissent respectivement à 26 mois et 37 mois. Ces longues périodes d'attente ne risquent pas de bouger de sitôt. Québec a plafonné à 10 400 le nombre de réponses positives possibles, limitant en conséquence le nombre de dossiers que les fonctionnaires peuvent traiter. Ces délais étaient encore plus longs pendant la pandémie. Aujourd'hui, les dossiers les plus anciens dont le regroupement Québec y réunifié a connaissance datent de 2022. Encore beaucoup d'inconnus. Malgré ce niveau élevé d'accord envers le besoin de réduire les délais, 21% des répondants ont préféré ne pas répondre à la question, signe que le sujet est mal connu. La raison pour laquelle il y a tant de confusion sur la réunification familiale, c'est à cause de l'entente sur les tiers pays sûrs, avance Marie-Gervaise Pilon. On ne peut pas demander l'asile quand on vient des États-Unis, sauf dans quelques cas particuliers. L'exception la plus souvent utilisée, c'est le cas où la personne a des membres de la famille au Canada. Ce type de réunification familiale n'est pas compilé dans les statistiques de Québec. Les résultats du coup de sonde ne surprennent pas la professeure Adèle Garnier, spécialiste des dynamiques migratoires à l'Université Laval. Ça semble normal que ça ne doive pas prendre 4 ans avant de revoir sa famille, avance-t-elle en entrevue. Elle-même est entrée au pays par cette voie il y a une décennie environ. Le processus n'avait alors duré que quelques mois. Selon elle, les craintes que les personnes qui immigrent par la réunification familiale coûtent cher à la société d'accueil ne sont pas tout à fait justes, car les personnes qui parrainent ces immigrants sont obligées de prendre en charge les personnes qui arrivent. Le regroupement familial n'est visiblement pas une priorité pour Québec, souligne-t-elle encore, car le gouvernement ne fait nullement mention de la famille dans les orientations de son plan pour l'immigration. De un, c'est dramatique de faire ça. De deux, en droit international, la famille, c'est l'unité de base dans la société. C'était le regroupement familial en immigration, moins controversé que l'on pensait, un texte de Jean-Louis Bordeloup paru le 26 avril 2025 dans Le Devoir.
Et le cellulaire des adultes, un texte de Stéphane Laporte, paru le 25 mai 2025 dans La Presse. Le gouvernement du Québec va interdire les cellulaires dans toutes les écoles primaires et secondaires dès la prochaine rentrée scolaire. Une bonne chose de faite. Les élèves vont à l'école pour apprendre et se comprendre, pas pour regarder des TikTok et envoyer des textos. Le premier écran qui a captivé les enfants, c'est la télévision. On ne se serait pas vu dans les années 1970 apporter à l'école notre télé pour regarder Ginny et les pierres à feu. Je le sais qu'une télé, c'est beaucoup trop gros, mais supposons qu'on aurait pu. On nous l'aurait interdit aussi. Je m'imagine entre deux cours en train de regarder Cinéquiz pour noter le nom de l'étoile du jour. Ça n'aurait pas été long que le père Lavoie aurait confisqué ma Sony Trinitron. Si les téléphones mobiles ont infiltré nos établissements scolaires, c'est justement à cause de leur mobilité. C'est gros comme un peigne, ça se glisse dans sa poche et on a à la portée de la main toutes nos sources de distraction. Comme si, dans le temps, on avait eu dans notre sac à dos non seulement notre télé, mais nos Etch-a-Sketch, Light Bright, Milborn, Walkie Talkie, Game Boy et Tutti Quanti. Cela dit, il n'y a pas juste à l'école où le téléphone interfère avec le bon déroulement des choses. C'est le cas à plusieurs endroits, mais on n'agit pas. C'est facile de discipliner les jeunes, c'est moins facile de discipliner les adultes. Pourtant, l'utilisation du cellulaire en société est souvent une nuisance. Tous les gens qui parlent à leur interlocuteur à voix haute dans les endroits publics, comme s'il n'y avait qu'eux sur Terre. Tous ceux qui écoutent des vidéos sans écouteurs et vous imposent des conseils de maquillage, de bricolage, des montées de lait dans des chars, 10 secondes en boucle du même bout de la chanson « Anxiety » ou des miaulements de chat. Tous ceux qui se servent de leur mobile au cinéma, au théâtre, au restaurant ou lors d'un concert. Tous ceux qui, en présence d'un être cher, en chair et en os, se mettent à répondre à leurs messages textes ou, aussi pire, se mettent à scroller leur fil Instagram. Tous ceux qui filment ce qui se passe autour d'eux sans demander votre consentement. Sans oublier le cellulaire au volant qui non seulement perturbe la circulation, mais met en danger la vie des gens. La liste serait encore longue des méfaits du cellulaire. Si certains de ces usages sont régis par une réglementation ou des avertissements, soit au volant, dans les salles de cinéma, de théâtre, de spectacle, dans les hôpitaux, dans les tribunaux et les avions, il y a encore bien des citoyens qui n'en font qu'à leur tête, ou plutôt, qu'à leur pas de tête. Comment faire pour que le téléphone ne soit pas toujours dans nos jambes, ou plutôt dans nos mains, et surtout dans celles des autres? Le cellulaire d'autrui étant toujours plus incommodant que le sien. Est-ce que la jeunesse qui en aura été privée à l'école rendue adulte saura mieux gérer son rapport avec l'objet que nous? Car, avouons-le, nous applaudissons tous la mesure d'un vil. Mais serions-nous capables de nous passer de notre cellulaire de 8 heures du matin à 4 heures de l'après-midi? Jamais de la vie. Il va bien falloir s'autodiscipliner avant que le mobile fasse de nous des êtres cloisonnés, préférant les relations à distance à celles de proximité. Le cellulaire permet d'avoir le contrôle de nos échanges. On les accepte quand bon nous semble. On répond quand ça nous chante. L'endroit où nous sommes, les humains avec qui nous sommes deviennent des accessoires à notre mise en scène de réalité qu'on va bien vouloir exposer dans nos réseaux sociaux. On ne vit plus en société. On vit en virtualité. L'écran du cellulaire nous protège des autres, comme l'écran solaire nous protège du soleil. Le cellulaire est un écran communautaire qui nous protège de la communauté. Un écran solitaire. Espérons que les élèves sanctionnés, pour se venger, mettront de la pression sur leurs parents pour qu'ils diminuent leur temps immobile au mobile. Si je n'y ai pas le droit à l'école, toi, maman, tu n'y as pas le droit à la table. Toi, papa, tu n'y as pas le droit dans le salon. Allez, les enfants, changez le monde. Que la mesure du gouvernement ait un effet boule de neige sur l'ensemble de la société. Pas de cellulaire à l'école, moins de cellulaire ailleurs. Ça ne veut pas dire de ne pas s'en servir. Ça veut dire ne pas être à son service. Utilisez-le aussi intelligemment que vous utilisez cette tablette qui vous permet de lire la presse. Un service essentiel, mais pas omniprésent. Levez les yeux et regardez les gens avec vous, avant qu'ils n'y soient plus. C'était « Et le cellulaire des adultes », un texte de Stéphane Laporte, paru le 25 mai 2025 dans La Presse.
Tout ce qu'il faut savoir sur le régime d'union parentale, un texte d'Isabelle Dubé, paru le 25 mai 2025 dans La Presse. Le 30 juin 2025, la vie de nombreuses familles va changer. Dès qu'un enfant naîtra ou sera adopté à partir de cette date, ses parents seront automatiquement intégrés dans le nouveau régime d'union parentale, sauf ceux qui sont mariés. À quoi sert ce régime? Vous avez choisi de ne pas vous marier? Comme conjoint de fait, si vous devenez parent, vous avez une responsabilité commune qui est l'enfant. Normalement, les conséquences économiques qui résultent de cet enfant et les désavantages économiques que sa prise en charge peut entraîner doivent être répartis équitablement, explique en entrevue Alain Roy, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, conseiller spécial du ministre et président du Comité consultatif sur le droit de la famille. Ce n'est pas normal qu'un conjoint supporte tous les désavantages ou une majorité de désavantages au profit de l'autre. Le régime d'union parentale vise à répartir les désavantages économiques de façon équitable entre les conjoints par le patrimoine d'union parentale et par la prestation compensatoire, poursuit-il. Qu'est-ce qui va changer le 30 juin? Les couples en union de fait, conjoints de fait, qui vont avoir un enfant en commun après le 29 juin 2025, naissance ou adoption en bonne et due forme, seront intégrés automatiquement dans ce qu'on appelle le régime d'union parentale. À partir de la date de l'arrivée d'un enfant, les couples accumuleront un patrimoine d'union parentale. Qu'est-ce qui y est inclus? toutes les résidences de la famille, donc aussi bien la principale que les résidences secondaires, comme les chalets, les meubles qui se trouvent à l'intérieur de l'une ou l'autre de ces résidences et qui servent à l'usage du ménage, les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille aussi. L'avocate Suzanne H. Pringle, associée chez Pringle et Associés, précise en entrevue que les véhicules qui servent au déplacement de la famille peuvent être des VTT, des motos, des motoneiges, des bateaux, des avions et des hélicoptères. Contrairement au patrimoine familial des gens mariés, les fonds de retraite, REER et rente ne font pas partie du patrimoine d'union parentale. Les héritages et les dons ne font partie d'aucun patrimoine. Tout ce qui est dans le patrimoine sera partagé entre les conjoints lors de la séparation ou avec la succession en cas de décès. Si vous étiez le seul propriétaire de la maison et de l'auto avant l'arrivée de l'enfant, celles-ci ne seront pas partagées. Tu dois devenir l'historien financier de ta vie commune. Image Suzanne Pringle. Il faut que tu conserves les preuves de la façon dont tu as acquis les choses et surtout de ce que tu as obtenu comme don et comme héritage. Ce sera plus facile si tu te retrouves en litige avec ton ex-conjoint ou avec la succession. Si l'héritage est mis dans le compte conjoint, par exemple, et utilisé pour les achats quotidiens de la famille, il sera difficilement retraçable. La résidence principale devient protégée. En plus du patrimoine, il y a des mesures de protection de la résidence familiale qui entrent en vigueur à la naissance de l'enfant. Ces mesures visent à assurer la stabilité du cadre de vie familiale ainsi qu'un toit aux enfants et aux personnes vulnérables, propriétaires ou non propriétaires. Si vous êtes copropriétaire de la résidence, vous êtes déjà protégé, car vous ne pouvez pas vendre ou hypothéquer la propriété sans l'accord de l'autre. Cependant, si vous emménagez dans la maison appartenant à votre conjoint ou conjointe, il ne pourra pas la vendre, la louer ou l'hypothéquer sans avoir obtenu votre consentement. Ce qu'on vise ici, c'est la situation des couples où il y en a un qui est propriétaire et l'autre pas. On veut éviter que le non-propriétaire et les enfants se retrouvent à la rue du jour au lendemain, indique Alain Roy. Vous êtes locataire? Même si votre nom n'est pas sur le bail, le logement est protégé par les mesures. Vous avez l'option d'attribution de la résidence. En cas de séparation, les conjoints ont 120 jours à partir de la fin de l'union pour demander l'attribution de la propriété, l'attribution d'un bail ou l'utilisation des meubles qui servent au ménage. Tu ne peux pas dire à l'autre « tu pars » parce que les deux ont le droit d'habiter la résidence, précise Suzanne Pringle. Le tribunal peut ordonner à l'un des conjoints de quitter la résidence familiale pendant toute instance qui vise à régler les conséquences de la fin de l'union, même si la maison lui appartient. Vous pouvez obtenir une compensation financière. En cas de rupture, si l'un des conjoints s'est appauvri pendant que l'autre, au contraire, s'est enrichi, il pourra demander une compensation financière. À la suite de la naissance de l'enfant, si la conjointe, par exemple, s'est retirée du marché du travail pendant un an ou deux, elle a peut-être perdu de l'ancienneté, des années de rente, une promotion et des échelons salariaux. Elle pourra alors demander une prestation compensatoire. Ce sera au juge de voir quel est le montant adéquat pour couvrir la perte, explique Alain Roy. Pour que ce recours-là ne soit pas théorique, on a prévu une mesure qui s'appelle la provision pour frais. Donc, si monsieur a de l'argent et que madame n'est pas capable de financer son recours, explique-t-il, elle va pouvoir demander une provision pour frais, c'est-à-dire que c'est monsieur qui va couvrir ses frais. Comment le calcul sera-t-il fait? Par le passé, les tribunaux ont parfois appliqué une méthode de calcul désavantageuse. Plutôt que de calculer la perte réelle du salaire de la mère, par exemple 65 000 $, les tribunaux estimaient le coût d'une nounou à la maison, soit 25 000 $ par année. Évidemment, il y a toujours un plafond à la compensation que Madame pourra obtenir. C'est l'enrichissement de Monsieur, indique Alain Roy. Il est possible que Monsieur ne se soit pas enrichi du tout parce que Madame était au foyer et que Monsieur a utilisé toutes ses ressources. Mais si Monsieur a continué de s'enrichir, il va y avoir une prestation compensatoire. Pouvez-vous refuser d'entrer dans le nouveau régime? Seulement d'une portion du régime, soit celle du patrimoine d'union parentale, et vous devez absolument aller chez le notaire pour le faire par acte notarié. Si vous y allez dans les 90 jours suivant l'arrivée de votre enfant, le patrimoine d'union parentale n'aura jamais existé. Cependant, dès que vous dépassez les 90 jours, le patrimoine commence à s'accumuler. Un couple qui irait chez le notaire 5 ans après la naissance d'un enfant aurait à calculer la valeur de son patrimoine d'union parentale et le séparer équitablement avant de s'en retirer. Mais attention, même si vous allez chez le notaire pour vous retirer du patrimoine d'union parentale, vous ne pouvez pas vous retirer des mesures de protection de la résidence familiale et de la prestation compensatoire. Vous y avez toujours droit. Peut-on entrer volontairement dans le régime? Oui. Si vous avez déjà des enfants, vous pouvez entrer sans problème dans le nouveau régime d'union parentale. C'est tellement simple que vous pouvez même le faire à la maison, devant 2 témoins. Si quelqu'un choisit de faire ça et qu'il est mon client, je lui recommanderais toutefois de le faire par acte notarié, suggère Suzanne H. Pringle. Peut-on ajouter des éléments dans le patrimoine? Si les 2 membres du couple sont d'accord et trouvent profondément injuste que les pensions, rentes et REER ne soient pas inclus, parce qu'ils ont fait des choix de vie en conséquence, ils peuvent les ajouter. On peut ajouter ce qu'on veut, précise Suzanne H. Pringle. Le patrimoine peut être modifié simplement devant témoin, mais je ne conseille pas de le faire dans une soirée bien arrosée. Je conseille de le faire devant notaire. C'était tout ce qu'il faut savoir sur le régime d'union parentale, un texte d'Isabelle Dubé, paru le 25 mai 2025 dans la presse.